Monsieur Poitou, aidiez-vous vos parents au champ ?
Le travail au champ.
Tout le monde n'était pas au champ. Mes parents habitaient en ville, si tu veux. Mais toute la famille, du côté de ma mère en particulier, avait des fermes tout autour. Donc j'ai évidemment pratiqué tous les travaux des champs de l'époque.
C'était dur ?
Ça dépend comment on l'entend. Maintenant, dès l'instant qu'il y a des travaux physiques, vous trouvez ça dur.
Non.
C'est-à-dire que les gens de la campagne, actuellement, ils ont des tracteurs qui sont conduits par tout un système informatique. Ils sont assis tout le temps. Ils ne souffrent pas physiquement. Bon, ils ont mal au dos, ils ont évidemment des problèmes, mais ils ne travaillent pas musculairement. Tandis qu'à l'époque, tout était fait à la main. Absolument tout. On se faisait un peu aider par des attelages de vaches dans ma région, et dans d'autres régions, c'était avec des chevaux qui tiraient des charrues, qui tiraient des engins, mais tout à fait rudimentaires pour cultiver la terre. Mais c'était dur, mais le travail n'a jamais tué personne, au contraire. La preuve.
Merci, monsieur.
Quand vous étiez petit, vous mangez quoi au petit déjeuner ?
Des châtaignes.
Le matin, on mangeait beaucoup de lait. À la campagne, on avait des vaches, on avait donc du lait.
Des bovins.
On mangeait tout ce qu'on faisait produire nous-mêmes. On n'achetait rien. On consommait du lait, on consommait du pain qu'on faisait nous-mêmes. Tous les paysans faisaient leur pain eux-mêmes. Ils labouraient, ils semaient du blé, ils récoltaient le blé. Le blé, ils l'amenaient au meunier pour qu'il soit moulu et ils récupéraient de la farine. Avec de la farine et de l'eau, on fait du pain. Donc ils faisaient du pain. Et alors, le lait de la ferme, le pain de la ferme et le beurre et le fromage de la ferme. Parce qu'avec du lait, on fait du beurre et on fait du fromage. Je me mets à votre place, ça ne doit pas être facile à vous d'imaginer une vie où il n'existait pas les supermarchés, etc. Et que des gens arrivaient à vivre, à se nourrir par eux-mêmes, par ce qu'ils cultivaient eux-mêmes.
Chut !
Comment laviez-vous votre linge à l'époque ?
La lessive.
Personnellement, je ne le lavais pas, c'était ma mère qui le lavait. Eh bien, ça se faisait ou dans des rivières, que j'évoquais tout à l'heure, à l'eau vive, ou alors ça se faisait dans des mares que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, dans les campagnes, l'hygiène était tout à fait rudimentaire. Dans les fermes à la campagne, ils faisaient la lessive une fois par an. Alors ils avaient accumulé des tas comme ça de draps, de serviettes, de torchons, et à un moment donné, en général, à la belle saison, au mois de juin, juillet, quand il y a des belles journées, il y avait la période de la lessive, qui durait à peu près une semaine. Alors les voisines, tout ça venait, et autour de la mare, ça jacassait, ils étaient à genoux dans des petits praticables en bois. Et allez, au bord des mares, il y avait des pierres qui avaient été aménagées pour pouvoir battre le linge avec un battoir. Un battoir, c'est un outil, un peu comme un marteau, mais c'est en bois. Et puis c'est à peu près large comme ça, tu vois, avec un manche, comme ça. Alors, bam, tu tapes le linge pour faire sortir la saloperie. Et hop, et puis voilà. Et alors après, le linge était mis à sécher sur les prairies. Alors avant, on avait bien tondu à la main, hein, fauché à la faux. La partie où on allait faire sécher le linge était séché sur prairie. Donc, la chlorophylle, tu sais ce que c'est la chlorophylle quand même ? Non, même pas. Alors, la chlorophylle, c'est, pour être simple, ça vient de la verdure. C'est-à-dire que si on peut respirer, si l'air est encore respirable, mettons à Paris, c'est parce qu'il y a des parties boisées, par exemple le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, pour ne pas les nommer, qui sont les deux poumons de Paris. C'est-à-dire que les arbres, ils émettent de la chlorophylle qui lutte justement contre la pollution, contre tout ce que tu voudras, et qui fait qu'on respire encore et qu'on ne meurt pas chaque fois qu'on respire. Au contraire, on a l'impression qu'on revit encore mieux. Donc, le linge qui était séché sur cette verdure, il ressortait avec une odeur formidable de nature, et c'était magnifique, quoi. Et les draps n'étaient pas du tout du même produit que vous connaissez aujourd'hui. C'était fait avec des matières naturelles, comme le chanvre et le lin. Excuse-moi, regarde pas. La laine. La laine. La laine, comme ça. Ça vient d'où, la laine?
Du mouton.
Du mouton. Le mouton. Le mouton. Naturellement, il a donc une espèce de manteau de laine qui l'enveloppe. Et tous les ans, on tond le mouton. Même encore, de nos jours, on récupère toute cette toison, on la travaille parce que c'est très long, et après c'est filé et on fait des vêtements, on fait de la laine. Il y a des races de moutons comme le mérinos qu'on appelle, qui fait de la laine magnifique. C'est devenu des produits de luxe. Alors qu'à l'époque, dans beaucoup de campagnes, en particulier dans ma région, on vivait en autarcie.
Voyage, voyage.
Comme l'avion, ça n'existait pas, et les bateaux n'existaient pas comme maintenant. Vous êtes déjà allé dans un autre pays que la France quand vous étiez petit?
Non, quand j'étais petit, non, j'y suis allé après, mais pas quand j'étais petit. D'abord, mes parents n'avaient pas le moyen de me payer un voyage. Il y avait des trains, quand même. Vous pouvez aller dans tous les pays d'Europe.
Monsieur Bateau, comme avant, il n'y avait pas de machine et tout. Pour le métal, pour le travailler, c'était à la main.
Oui, c'est les forgerons.
Oui, mais ça veut dire que ça prenait des années.
Mais quand tu vois que, par exemple, la Tour Eiffel,
oui,
la Tour Eiffel,
on l'a fait en 2 ans.
C'est de la ferraille.
Oui.
Et elle a été faite quand?
En 1820.
Non.
1871.
89. C'est pour l'exposition universelle de 1889.
Oui, après, ils allaient l'enlever, la Tour Eiffel, mais après, ils ne l'ont pas enlevée, ils n'ont pas voulu.
Ah, ben bien sûr. Parce que même les savants, à l'époque, ils disaient que la Tour Eiffel ne tiendrait pas. Mais elle a tenu, elle est toujours là. Non, mais simplement, que pour répondre à ta question, à l'époque, il n'y avait pas du tout les moyens qu'il y a aujourd'hui. Mais la Tour Eiffel, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des centaines de milliers de rivets. Des rivets, c'est des...
Des clous,
c'est des, oui, c'est des genres de clous, si tu veux, pour assembler 2 morceaux de ferraille, tu vois, là. Donc, il faut faire des trous qui traversent tout ça et enfoncer quelque chose qui le tient. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un rivet. Mais après, pour qu'il ne sorte plus, il fallait aplatir les têtes des deux côtés pour qu'il ne tombe pas ou qu'il ne sorte pas. Là-haut, à 250 mètres de hauteur, à la main, à la masse. La masse, c'est un marteau, un gros marteau avec un manche. Et les ouvriers, à la main, ils ont riveté des centaines de milliers de rivets de la Tour Eiffel, entièrement à la main. Bon, on continue.